France Inter.
Bonjour à tous, c'est le milliardaire qui veut faire gagner l'extrême droite et la droite extrême dans les têtes et dans les urnes. Et pour ça, il est prêt à mettre les moyens et toute sa fortune. Son nom, Pierre-Édouard Sterrin. Bonjour Élodie Guéguin.
Bonjour Benoît.
Alors vous avez enquêté sur la stratégie et les réseaux de cet homme d'affaires encore peu connu du grand public, qui investit notamment dans la formation des élus et qui aspire même à devenir un saint.
Secret d'info. Benoît Colomba sur France Inter.
Comme des millions de Français, vous avez sans doute déjà acheté une Smartbox. Vous savez, ces boîtes cadeaux pour offrir un week-end en amoureux ou un soin à votre ami qui a une vilaine peau. Eh bien, ces Smartbox, c'est l'idée d'un homme, Pierre-Édouard Sterrin, et c'est une idée qui a fait sa richesse. Jusqu'ici, les médias, c'était pas son truc, mais comme tout bon milliardaire qui se respecte, il se dit qu'après tout, se payer un journal, eh bien, ça peut être utile.
Voilà, c'était le 24 avril dernier, dans la matinale de France Inter, le spécialiste des médias, Cyril Lacarrière, brosse le portrait d'un homme dont le nom surgit dans l'actualité, Pierre-Édouard Sterrin, qui cherche alors à racheter l'hebdomadaire Marianne. L'opération tombe finalement à l'eau, mais Élodie Guéguin, l'objectif de ce milliardaire reste lui inchangé.
Oui, et en l'occurrence, mettre son argent au service de ses idées. Et pour notre enquête, il a accepté de nous répondre là-dessus. Son argent, on vient de l'entendre, il vient principalement des coffrets cadeaux Smartbox, mais Pierre-Édouard Sterrin a également créé un fonds d'investissement, Autium Capital, qui lui permet de soutenir toute une myriade de sociétés. Et vous allez l'entendre, l'objectif qu'il s'est fixé est assez ambitieux.
Mes parents m'ont donné 5000 euros en 2003. Et ces 5000 euros ont fait beaucoup de petits à force de travail. Donc j'ai créé, développé beaucoup d'entreprises qui n'ont pas marché et parfois qui ont très bien marché. Et donc ces 5000 euros sont devenus 1,4 milliard d'euros au 1er janvier 2025. Et mon ambition est de faire en sorte que cette somme-là devienne 5 milliards en 2030.
Une success story donc pour ce quinquagénaire longiligne aux cheveux poivre et sel et au costume sans cravate, 104e fortune française. Pierre-Édouard Sterrin est installé en Belgique pour des raisons fiscales depuis 2012 et l'élection à la présidence de François Hollande. Sa société Smartbox, elle, a été transférée en Irlande, considérée comme l'un des paradis fiscaux en Europe. Et le milliardaire veut aujourd'hui faire fructifier sa fortune dans un but bien précis.
Ça a été pendant très longtemps un objectif à nouveau purement matériel qui était de me dire toujours plus, toujours plus, toujours plus. Autant aujourd'hui, la finalité est tout autre, puisque je me dis que, pour être un petit peu vulgaire peut-être, c'est plus de fric pour plus de bien. Donc ce qui m'intéresse aujourd'hui dans ma vie professionnelle, c'est de gagner plus d'argent pour essayer de financer plus de beaux projets qui œuvrent dans le bon sens afin de tirer la France vers le haut.
Financer plus de beaux projets pour tirer la France vers le haut. Bon, dans sa bouche, Élodie, tout ça a évidemment une signification bien précise.
Oui, écoutez Alice Barbe, elle est cofondatrice d'une ONG qui s'occupe de l'intégration des réfugiés. Et cela fait un an et demi qu'elle s'intéresse au réseau de Pierre-Édouard Sterrin.
Pierre-Édouard Sterrin, c'est une immense fortune, beaucoup de ressources, beaucoup de moyens au service d'une idéologie politique et tout un écosystème qu'il peut y avoir derrière.
Et cet écosystème, il est apparu au grand jour en juillet dernier.
Oui, avec la révélation par le journal L'Humanité du projet Périclès. Il s'agit d'une feuille de route pour mener une bataille culturelle et investir dans différents projets afin de faire triompher les idées conservatrices qui sont chères aux milliardaires.
Et pourquoi ce nom, Périclès ?
Alors, c'est une référence au fameux stratège grec, mais c'est aussi un acronyme, Périclès, pour, je cite, « patriote, enraciné, résistant, identitaire, chrétien, libéraux, européen et souverainiste ».
Et qu'est-ce qu'il y a derrière ce projet, alors ?
Alors, j'ai posé la question à son directeur général, Arnaud Rérol.
Périclès est une organisation qui a deux activités principales. La première, c'est de créer des initiatives citoyennes aux côtés d'entrepreneurs à travers un incubateur. Et puis la deuxième, c'est une activité d'investisseur où nous finançons des initiatives citoyennes pour les aider à passer à l'échelle.
des initiatives citoyennes, c'est ce que dit le directeur général de Périclès, mais derrière, il y a une stratégie bien précise.
Oui, une stratégie politique. L'objectif, c'est de contrer certaines forces politiques à gauche, comme Pierre-Édouard Sterrin l'a d'ailleurs expliqué lui-même dans une tribune publiée par Le Figaro en juillet dernier.
Je ne peux me résoudre à voir cette gauche mélenchonisée mener cette bataille culturelle sans rencontrer une résistance des forces de droite qui, depuis plus de 50 ans, courbe les chines sous les injonctions culturelles des déconstructeurs. Je ne peux m'y résoudre, et après une réflexion de plusieurs mois et en observant les divisions profondes des forces de droite à vouloir s'unir, j'ai décidé d'agir en organisant le projet Périclès.
Et 10 millions d'euros ont déjà été investis en 2024 dans le cadre de ce plan Périclès.
Et si on regarde maintenant dans le détail, Élodie, à qui il profite ce projet Périclès ?
Alors écoutez là-dessus la réponse d'Alice Barbe.
Quand on lit le plan Périclès, ça passe à la fois par le fait de financer des think tanks, des observatoires, comme l'Observatoire de l'immigration, qui évidemment est très utilisé, on peut le voir dans un certain nombre de médias, de chaînes en continu, où certains responsables politiques, par exemple, vont citer des sources qui viennent de l'Observatoire de l'immigration, qui est évidemment très biaisé. Ça peut être l'Observatoire du décolonialisme, qui vont amplifier finalement des messages avec tout ça, évidemment, à calcul, une volonté de faire monter certaines thématiques et certains sujets, notamment l'immigration, la laïcité, l'islam.
Et pour faire monter ces sujets, rien n'est laissé au hasard.
Oui, et ça on le comprend bien en examinant de près le plan Périclès, comme l'explique le journaliste à l'Humanité qui a dévoilé ce document, Thomas Lemayeux.
C'est assez saisissant parce que c'est vrai que c'est un document qui ressemble un peu à un business plan. C'est vrai que c'est l'approche de business plan de l'intervention dans la politique. Et c'est d'ailleurs, quand on a averti Pierre-Édouard Sterrin qu'on disposait de ce document et qu'on comptait bien le publier, il nous a rétorqué que si on le publiait, on s'exposait à des poursuites pour violation du secret des affaires. Ce qui est tout de même assez piquant, puisque là, il s'agit d'un projet politique. C'était bien, ça dénote aussi de sa conception, disons, très business, managériale, de la conduite de son intervention politique. Quoi. C'est, au fond, il conduit son intervention politique comme il conduit des affaires.
Et dans ces affaires, dans cette galaxie de think tank ou d'observatoire, il y a aussi des avocats.
Oui, et des avocats qui ont pour mission, eux aussi, de faire barrage à certaines idées, comme l'explique à nouveau Thomas Lemayeux.
Un des projets listés dans Périclès, c'est ce qu'il appelle la guérilla juridique, avec une équipe d'avocats dédiés qui vont attaquer des associations qui seraient, à leurs yeux, wokistes, woke. Et donc le but, à travers ces actions de guérilla juridique, c'est de faire ce qu'il appelle désormais le lawfare aussi, c'est faire taire, en fait, des milieux activistes qui défendent des idées hostiles au ciel.
Donc, porter ses idées et d'une certaine façon tenter d'éteindre ou de discréditer celles des autres, et ça passe aussi parfois par des sketchs.
En effet, Pierre-Édouard Sterrin investit également dans une société de production, les Films à l'arrache, qui diffuse des courts-métrages présentés comme humoristiques et visibles sur Internet. En voici un extrait. Dans cette scène, une femme vient de perdre son animal de compagnie.
Ça me fait trop de la peine, on s'attache trop vite à ces petites bêtes-là.
Bah, tu vas rester seule ?
Non.
Ah, un chien ?
Non, non.
Un hamster ?
Non plus. Un migrant.
Oh.
J'ai vu un film magnifique l'autre fois qui parlait d'une femme qui accueille un migrant chez elle. Ça m'a bouleversée. Je vais faire pareil. Il arrive cet après-midi.
Mais tu l'as trouvé où ?
Il y a des associations qui recueillent des chats errants, et bien il y a des associations qui recueillent des migrants errants aussi.
Et tu l'as déjà vu ?
Oui, ils m'ont montré une photo.
C'est quoi comme race ?
Bon, un croisement, on sait pas trop.
Et il est propre ?
Ah bah j'espère.
Non mais attends, je déconne.
Ouais, un humour bien particulier. Et puis Élodie, il y a un autre moyen pour tenter de peser sur l'opinion publique, ce sont les influenceurs.
Oui, Pierre-Édouard Sterrin a investi très récemment dans une agence d'influence baptisée Marmelades. Et dans un autre domaine, il vise aussi les instituts de sondage qui peuvent peser sur l'opinion. Le directeur général de Périclès, Arnaud Rérol, reconnaît que ça l'intéresse.
Ça fait partie des projets que nous étudions. Aujourd'hui, il n'y a aucune piste suffisamment avancée pour pouvoir vous donner plus de précisions. Mais on pense qu'il est intéressant, à la fois pour des raisons business, parce que nous restons des entrepreneurs et des investisseurs, nous y voyons une opportunité business, et puis une opportunité aussi par rapport aux objectifs que Périclès s'est fixés. Donc ça fait partie des différents sujets qu'on pourrait être amené à regarder, parmi beaucoup d'autres.
Et puis, bien sûr, on l'évoquait en début d'émission, pour Pierre-Édouard Sterrin, il y a évidemment la volonté de racheter des médias.
Oui, en juin 2024, la rédaction de Marianne s'est fortement mobilisée contre le rachat du magazine par Pierre-Édouard Sterrin, qui espère alors faire évoluer la ligne du journal, comme le rappelle l'historien des médias Alexis Lévrier.
Il y a une ligne assez souverainiste, qui n'est pas une ligne identitaire ni une ligne d'extrême droite, mais qui pouvait intéresser Pierre-Édouard Sterrin en se disant finalement j'ai juste à pousser un peu plus cette rédaction de ce côté-là, et il a pensé que la rédaction allait l'accepter. Et ça n'a pas été le cas, et c'est l'honneur d'ailleurs de cette rédaction que de s'être battu pour conserver sa ligne éditoriale et pour ne pas devenir le levier de cette guerre idéologique que voulait mener Pierre-Édouard Sterrin.
Et cette guerre idéologique, elle a aussi mobilisé les salariés du groupe Bayard lorsqu'a été annoncée l'arrivée d'Alban Durostu comme directeur de la stratégie. Alban Durostu est un très proche de Pierre-Édouard Sterrin, qui a d'ailleurs été son émissaire dans la tentative de rachat de Marianne. Des tentatives jusqu'ici infructueuses, ce qui fait dire à Alexis Lévrier que Pierre-Édouard Sterrin est encore loin d'avoir bâti un empire médiatique, à l'image par exemple d'un Vincent Bolloré.
Il a besoin d'une marque médiatique et Vincent Bolloré est parvenu, lui, à mettre la main sur des marques, évidemment sur le groupe Canal, sur Paris Match, même s'il l'a vendu depuis, sur le JDD. Donc des marques prestigieuses qui appartiennent à l'histoire de la presse et qu'on va ensuite détourner et même retourner contre leur propre histoire. Ça, l'extrême droite le fait constamment. C'est aussi une des stratégies du groupe Murdoch. C'est un peu ce qu'Elon Musk a fait avec Twitter. Et on voit bien que, comme fer de lance de son groupe, Pierre-Édouard Sterrin a besoin d'une marque. D'où ses projets à Marianne ou au groupe Bayard. On a un deuxième Bolloré qui tente de se construire, mais pour l'instant, il n'y parvient pas.
Il n'y parvient pas encore, mais en attendant, Élodie, Pierre-Édouard Sterrin, il soutient quand même quelques médias.
Oui, même s'ils sont moins visibles, il finance par exemple Néo, qui se présente comme le média en ligne des territoires, ou encore L'Incorrect, un mensuel qui se positionne à l'extrême droite. Écoutez un extrait d'une vidéo publiée en décembre dernier, justement par L'Incorrect.
Vous le savez, au cours de l'été, notre projet de hors-série sur l'art d'être français a fait l'objet d'une vague de censure inexplicable par les plateformes de financement participatif habituelles. Pourquoi tant d'acharnement ? La réponse est simple, nous dérangeons.
Ne les laissons pas gagner, ne laissons pas le politiquement correct étouffer notre voix. Rejoignez le combat de l'incorrect.
Votre soutien est notre force, notre indépendance et votre victoire.
Et dans cette sphère médiatique, Élodie, il y a un journal qui intéresse particulièrement Pierre-Édouard Sterrin.
Oui, il s'agit de l'hebdomadaire très droitier Valeurs Actuelles, comme il nous le confirme lui-même.
Valeurs Actuelles, c'est un sujet que je regarde, qui n'est pas du tout avancé. Et si demain quelqu'un vient me voir avec un beau projet de développement qui s'appuie sur Valeurs Actuelles, je serais ravi de faire quelque chose. Et peut-être de racheter le journal.
Oui, donc nous verrons bien si Valeurs Actuelles finira par être rachetée par Pierre-Édouard Sterrin. Et cette façon d'afficher publiquement la couleur, en quelque sorte, c'est ce qu'il distingue aussi de Vincent Bolloré.
Oui, et écoutez là-dessus l'historien des médias Alexis Lévrier.
La force de Bolloré, c'est qu'on ne l'entend pas. On ne l'entend que lorsque le Parlement le convoque. Donc on l'a entendu à une commission au Sénat en 2022, puis à une commission d'enquête à l'Assemblée nationale début 2024. Mais pour le reste, il fait en sorte de ne pas apparaître. Et ses succès, il les doit à sa discrétion et à sa stratégie de l'ombre. On a avec Pierre-Édouard Sterrin un personnage qui partage son idéologie, mais qui a des méthodes de communication opposées. Et on voit bien que ces méthodes de communication, pour l'instant, ne fonctionnent pas. Alors, c'est un point d'étape. Il est très possible qu'il arrive finalement à trouver des marques médiatiques, à les reprendre dans le sens de ses intérêts. Mais pour l'instant, c'est trop visible pour être efficace.
Et puis, il y a une autre différence qu'on peut noter avec Vincent Bolloré.
Oui, ça concerne cette fois son rapport à l'argent, comme l'explique le journaliste de l'Humanité, Thomas Lemayeux.
Il est prêt à ne rien laisser à ses enfants, à dépenser tout son argent, ce qui n'est peut-être pas le cas aussi de Bolloré, par exemple. C'est-à-dire, il y a un côté maximaliste, il est prêt à tout donner pour ses causes.
tout donné pour ses causes et rien à ses enfants, mais c'est vrai ça ?
C'est vrai, son patrimoine sera légué aux causes qui lui sont chères et pas à ses 5 enfants. Et ça, Pierre-Édouard Thérin l'assume parfaitement.
La raison pour laquelle moi je ne souhaite strictement rien donner d'un point de vue financier à mes enfants, c'est que je pense qu'ils seront beaucoup plus libres et beaucoup plus heureux s'ils démarrent leur vie professionnelle en partant de rien qu'en partant avec un appart, une maison ou de l'argent sur le compte donné par papa-maman. Après, c'est pas parce que j'ai déshérite que je ne serai pas là pour les aider en cas de grande difficulté. C'est ce qu'ont fait mes parents pour moi, où à l'âge de 29 ans, j'ai plus de quoi payer mon appartement à Paris. Et donc je suis retourné vivre dans ma chambre d'adolescent. Et donc mes parents ont toujours été là pour moi, sans excès. Je souhaite développer le même modèle avec mes enfants.
C'est donc tout pour son projet idéologique et politique. Et Pierre-Édouard Thérin, il s'inscrit dans un temps vraiment très long.
Oui, et ça on le comprend dans un podcast « Génération Do It Yourself » diffusé en octobre 2022. Et ne soyez pas surpris, vous allez l'entendre, le milliardaire parle de lui à la troisième personne.
Ça peut paraître peut-être un petit peu fou, mais on a construit un plan à 2000 ans. Pourquoi ? Parce qu'on se voit monter une structure qui pourra financer X causes en France sur le très long terme. Et donc voilà, la structure, elle est à 2000 ans. Pierre-Édouard a juste été l'initiateur de ce projet-là. Mais demain, je ne serai pas dans la direction, dans la gouvernance. Mes enfants non plus, mon épouse non plus, mes amis non plus. C'est une structure qui a vocation à être la plus performante possible au service de la France et de ses concitoyens.
France Inter, Secret d'info, Benoît Colombat.
Alors on a vu que le milliardaire conservateur Pierre-Édouard Thérin a bien l'intention de mettre toute sa fortune au service de ses idées. Mais Élodie Guéguin, avec qui politiquement pour les porter ses idées ?
Eh bien j'ai posé la question au directeur général de Périclès, Arnaud Rayrol, et voici sa réponse.
Il est normal, eu égard à nos activités métapolitiques et notre prisme libéral-conservateur, et notre action qui consiste à financer des associations et des initiatives citoyennes, d'avoir des contacts réguliers avec les acteurs de la cité, mais sur un spectre politique très large et sans aucune priorisation d'équipe, quelle qu'elle soit.
Un spectre politique très large, explique le responsable de Périclès, cette structure donc au service de Pierre-Édouard Thérin, mais un spectre qui penche quand même clairement vers l'extrême droite.
Oui, alors déjà le bras droit en affaires de Pierre-Édouard Thérin, François Durvy, conseille officieusement depuis 3 ans le Rassemblement National sur les questions économiques. Je précise que les deux hommes ont également racheté l'été dernier le manoir familial de la famille Le Pen à Rueil-Malmaison dans les Hauts-de-Seine. Et selon Thomas Lemayeux, qui a dévoilé la feuille de route de Périclès dans le journal L'Humanité, c'est bien l'extrême droite que le milliardaire veut d'abord favoriser.
Dans le document Périclès, un des projets qui est déjà réalisé, c'est un accord de conseil d'aide au Rassemblement National qui a été noué quelques semaines avant la rédaction de ce document, lors des estivales du Rassemblement National, et qui vise en fait à conseiller le Rassemblement National en vue des municipales 2026 pour lui faire gagner absolument, il y a cet adverbe, absolument, donc faire gagner absolument 300 villes, petites et moyennes, au Rassemblement National.
Donc l'objectif affiché, c'est au moins 300 villes gagnées par le RN aux prochaines municipales. Et qu'est-ce qu'il en dit, Pierre-Édouard Thérin ?
Eh bien que lui, son objectif, c'est de faire infuser ses idées, mais bien au-delà du RN.
Je suis extrêmement ouvert et pragmatique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire avancer des sujets. Par exemple, je vais prendre sur des sujets de wokisme. Aujourd'hui, il y a un paquet de socialistes, notamment historiques, qui sont toujours au PS aujourd'hui et qui sont très alignés sur ces sujets de dérive wokiste, sur les sujets de menaces islamistes, même chose. Par contre, c'est certain que sur des sujets de, je vais prendre un cas extrême, sur les sujets d'avortement, je vais pas me retrouver aligné avec un socialiste et même pas non plus bien souvent avec quelqu'un du RN, ni avec quelqu'un de l'air.
Alors, il faut préciser que concernant l'avortement, Pierre-Édouard Thérin considère qu'il s'agit d'un infanticide. Écoutez à nouveau là-dessus le journaliste Thomas Lemayeux.
Il finance des associations qui existent plutôt pour décourager les femmes de recourir à l'avortement. Il peut aussi financer des écoles privées catholiques hors contrat. Il finance également des mouvements de défense du patrimoine, les calvaires, les églises. Son but, il le dit assez souvent, c'est de recristianiser la France.
Et sur l'émigration, Pierre-Édouard Sterrin se dit favorable au concept de remigration théorisé par l'extrême droite. Mais encore une fois, lui affirme tenter de convaincre bien au-delà de ses convictions personnelles.
Je rencontre très très majoritairement des gens qui vont du centre à la droite, voire ce que vous appelleriez, je ne sais pas moi, l'extrême droite ou la droite de la droite, la droite patriote. Donc ça, c'est quand même 80% des gens que je rencontre. Il y a 20% des gens que je rencontre qui sont entre la gauche et l'extrême gauche. Parce qu'il y a quelques personnes intelligentes, compétentes, qui partagent quelques combats communs avec qui je suis ravi de collaborer.
Et parmi ce que Pierre-Édouard Sterrin semble particulièrement apprécier, il y a l'actuel ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, candidat déclaré pour diriger le parti Les Républicains et avec qui il a récemment déjeuné. On sait aussi qu'il est en lien régulier avec Éric Ciotti, l'ancien président de LR qui a rejoint Marine Le Pen et dont le nouveau parti s'appelle l'UDR, l'Union des droites pour la République. Eh bien, l'Union des droites, c'est justement ce dont rêve Pierre-Édouard Sterrin.
Bien, alors, on va s'arrêter là pour le moment, mais surtout, restez avec nous. Dans un instant, on va voir comment, pour tenter de faire gagner cette union des droites, Pierre-Édouard Sterrin investit également dans la formation des élus. La voix reconnaissable entre toutes de Robert Smith et sa noirceur si poétique, All I Ever Am, extrait du dernier album du groupe britannique mythique The Cure, Songs of a Lost World.
France Inter, Secret d'info, Benoît Colombat.
Et retour à notre enquête sur la stratégie du milliardaire conservateur Pierre-Édouard Sterrin pour tenter de faire gagner ses idées à travers tout un écosystème et avec un objectif, l'union des droites. Et pour ça, Élodie Guéguin, Pierre-Édouard Sterrin mise notamment sur la formation des élus.
Oui, à travers une structure baptisée Politicae et qui s'adresse à de futurs maires. Nous avons suivi l'un de ces séminaires le mois dernier dans le centre de Paris. Une trentaine de futurs candidats aux prochaines municipales étaient présents ce jour-là. Ils suivaient une formation délivrée par le maire d'hiver droite de Saint-Jouard en Haute-Savoie, Antoine Valentin.
Aujourd'hui, nous sommes complètement libres dans notre fonctionnement. On n'a aucune directive d'ailleurs politique de Pierre-Édouard Sterrin. Et vous le voyez aujourd'hui, des candidats de tous bords, de tout horizon politique, de toute taille de collectivité. Et une fois encore, la vocation qui est la nôtre est de laisser le choix aux électeurs. Et on n'a donc pas de projet politique caché, plutôt une ambition démocratique.
Il a donné combien, Pierre-Édouard Sterrin ?
Vous lui demanderez. Politicae ne communique pas sur les dons que nous avons reçus, que ce soit Pierre-Édouard Sterrin ou d'autres, mais il nous a donné de quoi, en tout cas, passer l'échelle et mettre un petit coup de boost au début du projet. Aujourd'hui, son financement représente moins de la moitié des ressources de Politicae.
Je précise tout de même que dans les faits, les formations de Politicae sont suivies majoritairement par des candidats issus de la droite. Et au-delà de ces futurs élus, l'idée de Pierre-Édouard Sterrin, c'est aussi de pouvoir compter sur des collaborateurs qui seront opérationnels quand la droite conservatrice arrivera au pouvoir. Comme l'explique Thomas Lemayeux, le journaliste qui a dévoilé l'agenda du milliardaire avec le plan Périclès.
On fait des listes de collaborateurs, entre guillemets, possibles pour occuper des plus hautes fonctions de l'État, les cabinets ministériels, dans les entreprises parapubliques et publiques. On fait ce qu'on appelle la réserve, et c'est en fait un fichier de 1000 noms de gens qui seraient aptes et alignés, comme on dit dans le milieu de ce terrain, alignés sur les valeurs de ce Périclès, aptes à exercer le pouvoir en cas de victoire de leur camp, c'est-à-dire les droites extrêmes.
Et cette réserve de potentiels collaborateurs, elle se trouve où en fait ?
Eh bien notamment au sein de l'IFP, l'Institut de formation politique, auquel le milliardaire Pierre-Édouard Sterrin apporte un soutien financier. Un institut dirigé par Alexandre Pezet, un Français qui a fréquenté aux États-Unis un think tank conservateur, le Leadership Institute. Anne-Sophie Saint-Père a enquêté sur ses réseaux pour l'Observatoire des multinationales et plus précisément sur le parcours d'Alexandre Pezet.
De retour en France en 2003, il a fondé l'Institut de formation politique, qui est un peu une forme de version française du Leadership Institute, avec l'idée de former de jeunes conservateurs en France, à la fois pour les destiner à la politique, il y en a qui deviennent collaborateurs d'élus ou élus directement, mais aussi pour qu'ils diffusent ensuite dans les médias, en tant que journalistes ou en tant qu'influenceurs, porte-parole, ou qu'ils fondent des think tanks, pour gagner la bataille culturelle et la bataille des idées, à la fois sur un ultralibéralisme économique et sur des valeurs conservatrices, donc très réactionnaires sur la question des droits des personnes LGBT, sur l'immigration et sur ce type de sujet.
Et on retrouve là la bataille des idées, chère à Pierre-Édouard Sterrin. Et ce qu'il faut dire aussi, Élodie, c'est que dans l'entourage de Donald Trump aux États-Unis, on s'intéresse également aux milliardaires français.
Oui, comme l'ancien conseiller du président américain, le lobbyiste Paul Manafort, qui était intervenu lors de la campagne d'Édouard Balladur en 1995 et qui a donc proposé ses services à Périclès en vue de la prochaine élection présidentielle en France. Une information révélée par le New York Times et le journaliste Constant Méheux.
Paul Manafort l'a certainement identifié Pierre-Édouard Sterrin comme un profil type avec qui il pourrait travailler. Il a aussi de l'expérience en France. Le projet Périclès, c'est un projet qui correspond à la ligne idéologique de Paul Manafort, qui aux États-Unis a toujours travaillé avec des candidats républicains. Donc il y a une forme, je dirais, de cohérence à la fois idéologique et méthodologique dans cette possible collaboration.
Et je précise que le directeur général de Périclès nous fait savoir qu'il n'a pas donné suite à l'offre de l'ancien conseiller de Donald Trump.
Donc, on l'a bien compris, Pierre-Édouard Sterrin entend bien peser sur les prochaines élections en France, mais ça ne s'arrête pas là, parce que derrière tout ça, il a également des activités philanthropiques.
Oui, regroupé dans une structure qui s'appelle le Fonds du bien commun. Autour de ce fonds a été créé un événement, les Nuits du bien commun. Ce sont de grandes soirées de charité dans toute la France. France, où des associations et des projets sont soutenus grâce à un système d'enchères. À Paris, l'événement a régulièrement été organisé à l'Olympia, propriété de Vincent Bolloré, et diffusé sur la chaîne C8, qui appartient aussi au milliardaire breton, comme ici en 2021.
C8 fête les 5 ans de la Nuit du Bien Commun. Cette belle soirée de levée de dons a permis à 90 projets solidaires de se concrétiser.
Les 5 ans de la Nuit du Bien Commun, présenté par Cécile de Ménibus, demain à 23h15 sur C8.
Et ce que vous avez découvert, Élodie, c'est qu'un certain nombre d'acteurs de ces Nuits du Bien Commun n'avaient pas forcément fait le lien avec le milliardaire et son fonds du bien commun.
Oui, c'est le cas notamment de cet entrepreneur qui a accepté de témoigner, mais sans dévoiler publiquement son identité. Nous avons fait lire ses propos.
Nous avons été mis en lien avec la Nuit du Bien Commun en tant qu'acteur de la philanthropie. À aucun moment il n'avait été question de la galaxie Pierre-Édouard Sterrin et de tout ce que cela représente. Lors de ces événements, vous trouvez toujours le même type de structure, avec toujours des associations liées de près ou de loin à la mouvance catholique intégriste, souvent anti-IVG. Il n'est plus possible de ne pas savoir qui sont ces gens et à quelle fin ils organisent ces soirées.
Et autre exemple de l'embarras que peut susciter Pierre-Édouard Sterrin, ce qui s'est passé à Marseille début 2024, alors que la presse révélait les liens entre le milliardaire et les soirées de charité des Nuits du Bien Commun. Une réunion de crise se tient alors avec l'ensemble des partenaires associatifs et institutionnels. Au cœur des discussions, une prise de distance avec le Fonds du Bien Commun de Pierre-Édouard Sterrin et un éventuel changement de nom des Nuits du Bien Commun. Nous avons eu accès à un enregistrement de cette réunion de crise, en voici un extrait.
On va dire qu'on a pris conscience vraiment l'an dernier que cette confusion de noms nous faisait un tort terrible. On était un peu naïf, je pense, de se dire la Nuit du Bien Commun existe depuis 7 ans. Elle a sa notoriété, elle peut vivre indépendamment des initiatives de Pierre-Édouard comme le Fonds du Bien Commun. Donc voilà, donc on sait que c'est un caillou dans la chaussure.
Oui, donc dans cette réunion à Marseille, le milliardaire, on vient de l'entendre, est vu par certains comme un caillou dans la chaussure. Et Pierre-Édouard Sterrin, qu'est-ce qu'il répond à ça?
Eh bien, écoutez-le, il réagit plutôt mal.
Je trouve ça fou, c'est comme si demain, tel ou tel assoce, que ce soit le Secours catholique, les Restos du Cœur ou je sais pas trop quoi, vous disiez, attendez là, vous voulez donner de l'argent, mais quelle est votre couleur politique? Je trouve ça hallucinant, cette intolérance qui est assez coutumière de la gauche et d'extrême-gauche, ça me fait halluciner.
Ça le fait halluciner, mais il n'y a pas qu'à Marseille que la figure de Pierre-Édouard Sterrin fait réagir.
En effet, c'est aussi le cas à l'Observatoire de l'éthique universitaire, qu'on appelait avant Observatoire du décolonialisme. Suite à la révélation de la feuille de route idéologique du milliardaire dans la presse, la vice-présidente de l'Observatoire, Nathalie Hennisch, a claqué la porte. Elle ignorait tout du projet politique de Pierre-Édouard Sterrin.
Le Fonds du Bien Commun nous avait contactés en 2022 pour nous proposer un financement, ce qui nous était évidemment utile pour payer secrétaire de rédaction, webmaster, etc. À l'époque, on s'était renseigné et on avait vu qu'il s'agissait d'un philanthrope de droite catholique, mais sans projet politique particulier, et on avait accepté ce financement. Et puis, est apparu dans la presse, ce que j'ignorais, le fait que le Fonds du Bien Commun est maintenant sous la houlette de ce qui s'appelle le projet Périclès. Et quand je suis allée voir sur le site du projet Périclès, j'ai vu qu'il s'agissait d'un projet ouvertement politique.
Alors on va bientôt conclure, Élodie, mais au-delà de son projet politique, il y a quand même chez Pierre-Édouard Sterrin quelque chose d'assez singulier.
Oui, c'est une façon d'agir un peu comme s'il était en mission. Écoutez ce qu'il a confié dans ce podcast Génération Do It Yourself, diffusé en 2022.
Je rêve de devenir saint. Si je suis très très bon sur Terre, très vertueux, ça me permettrait d'optimiser mes chances de devenir saint. Et tu vois, j'avais tapé sur Google comment devenir saint. J'ai essayé de lire des bouquins et tout. J'ai rien trouvé d'hyper concret. De façon très intéressée, je me dis qu'en étant bon sur Terre, ça me permettrait d'aller vivre au paradis.
Il rêve de devenir un saint, mais est-ce qu'il est vraiment sérieux?
Oui, très sérieux. Voici ce qu'il m'a répondu sur ce point très précis.
J'essaye d'orienter toutes mes actions vers cet objectif qui est de devenir saint. C'est un driver au quotidien qui m'amène dans mes actions, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, à essayer de faire les choses dans le bon sens pour pouvoir effectivement aspirer à cette sainteté et à cette vie éternelle.
Bon, mais en attendant la vie éternelle, Élodie, l'objectif de Pierre-Édouard Sterrin reste, lui, très concret.
Oui, rien que pour le plan Périclès, ce sont 150 millions qui vont être déboursés sur les 10 prochaines années pour soutenir donc toute une myriade de structures et créer un écosystème favorable à ses idées. Pierre-Édouard Sterrin compte aussi peser dans le débat politique, ce qui peut poser question au regard des règles du financement politique pour Alice Barbe, qui connaît bien le monde de la philanthropie et qui s'intéresse de près au réseau de Pierre-Édouard Sterrin.
En France, on ne peut pas financer de partis politiques au-delà d'un certain seuil. En général, 7 500 € par an par personne, plus un petit peu plus pendant les périodes d'élections présidentielles. Mais la question qui se pose, c'est comment l'État va devoir ou pouvoir se positionner lorsqu'il y a une concentration aussi énorme de ressources financières au service d'une bataille culturelle et donc in fine politique. Pierre-Édouard Sterrin, il ne peut pas financer directement des partis politiques. En revanche, quand il finance des écoles, quand il finance des médias ou des incubateurs de médias, là, il a un impact qui est très politique. Et ça, il va falloir se pencher dessus très sérieusement.
Et parallèlement à sa bataille culturelle, Pierre-Édouard Sterrin n'oublie pas de faire des affaires. Avec son fonds Otium Capital, il espère mettre un pied dans l'industrie. Il est en ce moment sur les rangs pour racheter GMD, qui est l'un des plus gros équipementiers automobiles en France.
Merci Élodie Guéguin pour cette enquête que vous pouvez retrouver en longueur sur notre site et sur l'appli Radio France, avec également, pour tout comprendre, la galaxie des différentes structures liées à Pierre-Édouard Sterrin, mise en image par Raphaël Canezan. Secret d'info, c'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission était préparée par Raphaël Canezan et réalisée par Christophe Imbert. À la programmation musicale, il y avait Jean-Baptiste Audibert et à la technique, Julien Dumont. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous retrouve samedi prochain.